Cult Moment, The Monk's Dream, Les mots ont des oreilles, La Movida.
Les gens de panique.
Musique du monde.
Michel Goudard.
C'est toujours compliqué de dire comment on est arrivé dans une radio. D'abord, on entend parler de la radio. On entend que la radio existe, on apprend à la connaître avec ses caractéristiques. Et c'est vrai que chaque radio à Bruxelles a un petit peu ses caractéristiques, que ce soit SI, que ce soit Panique, que ce soit Air Libre ou Campus. Dans un premier temps, connaissant un petit peu la programmation de Panique et appréciant énormément les bandes non-stop aussi de Panique à l'époque, il y a de cela quelques années maintenant, faisant des émissions à Radio Campus, j'avais envie de proposer au moins un des trois programmes que je réalisais à un nouveau public qui d'ailleurs s'entrecoupe avec le public de Radio Campus d'ailleurs. Et donc j'ai proposé à Radio Panique de rediffuser l'émission Musique du Monde. Mais en fait, je me rends compte en disant ça que je connaissais des animateurs de Panique par un petit restaurant qui se trouve à Skarbek. Et effectivement, Hendrik d'un côté, Patrick aussi d'ailleurs, qui écoutait l'émission Musique du Monde et qui appréciait apparemment. On fait que des liens se sont nés en fait entre des animateurs de Radio Panique et d'autres animateurs de Radio Campus et moi-même. Et puis moi, ça me paraissait tout logique effectivement de venir rediffuser ici les programmes que j'aime beaucoup, que je réalise depuis 8 ans, que j'avais envie donc de proposer à un public nouveau ou tout simplement proposer à un public qui ne peut pas toujours écouter le direct et de pouvoir écouter en différé. Au niveau de Musique du Monde, j'ai l'habitude de dire que c'est une émission qui a pour sujet principal les musiques ethniques, traditionnelles et populaires. D'abord ethniques parce que propre à une identité culturelle. J'apprécie beaucoup le fait que parfois je travaille par thème d'une heure souvent, parce que je trouve ça plus cohérent quand c'est possible, quand la discographie s'y prête. Traditionnel parce qu'effectivement pour moi je trouve ça important de ne pas oublier les sources un petit peu de tous les métissages actuels et que je présente souvent les musiques traditionnelles comme des fenêtres ouvertes sur le monde, un petit peu comme les musiques métissées, mais l'avantage c'est qu'elles sont de tous les instants. Enfin, c'est des choses que j'ai écrites déjà dans mes dossiers Communauté française, mais c'est vrai, ils sont de tous les instants, et tristes, gays, enfin, on les retrouve à tout moment. Ils renferment énormément de valeurs par rapport à l'ethnie ou la communauté qui l'interprète. Et en général, même si c'est des musiques traditionnelles d'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier, les musiques traditionnelles ne sont pas du tout figées, contrairement à la musique classique. Les musiques traditionnelles n'ont pas cessé d'évoluer et d'incorporer des influences. Mais incorporer et pas juste prendre et lâcher après. Et qu'on peut effectivement mieux connaître les gens qui nous entourent, qu'ils vivent en Belgique ou non. Et je crois qu'à une époque où on vit vraiment une mondialisation de toutes sortes de choses, on a parfois tendance à oublier que derrière le nom brésilien, que derrière le nom habitant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a énormément de choses. Et par exemple, moi je déplore toujours que j'étais engagé dans des mouvements politiques, mais que les gens qui s'engagent pour le Nicaragua, pour le Tibet, peu importe, Israël aussi, oublie 99% du temps que derrière toutes ces luttes, toutes ces revendications, je dirais, des droits de l'homme, revendications également au niveau politique, au niveau des tendances qu'on peut avoir, il y a toute une culture, il y a toute une sensibilité qui est différente de la nôtre. Et les musiques, c'est une des portes possibles. Ça peut être la littérature, ça peut être d'autres choses aussi, mais les musiques du monde sont une des portes très riches parce qu'elles, effectivement, elles parlent de tout, elles sont partout. Se vit par voir justement la difficulté, c'est de les décoder. Un obstacle principal pour apprécier les musiques du monde, les musiques ethniques, c'est la langue. La langue et parfois l'esthétique aussi. L'esthétique parce qu'effectivement, les esthétiques qui nous choquent un peu plus, ou qu'on perçoit différemment en tout cas des personnes pour qui ça a été créé au départ. Et souvent, on les sort complètement de leur contexte. Un chant d'initiation pour les jeunes filles pubères au Bénin, ça n'a strictement rien à voir avec notre société à nous. Donc, il faut pouvoir justement déplacer son esprit un petit peu, se replacer dans le contexte, ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que je parle beaucoup dans l'émission et certains auditeurs justement apprécient. Et je ne le fais pas pour ça, mais je le fais parce que je trouve ça important. Et la langue, c'est qu'effectivement, on a une certaine approche et je crois qu'on peut aller... quand on explique un petit peu le contenu, quand on a la chance d'avoir les traductions de texte ou une introduction, la sensibilité est affinée un petit peu par rapport à ce qu'on entend. Mais bon, il faut connaître ses limites. Et un chant ouzbek, il restera à chanter en ouzbek. Et malheureusement, on n'apprécierait que la beauté de la langue et un petit peu une introduction quand même au contenu. Mais sans plus, je crois qu'il faut Il faut aller jusqu'où on peut aller, mais il ne faut pas rêver non plus. Il faut reconnaître qu'il y a 8 ans, je ne connaissais rien du tout en musique du monde et que je n'ai pas du tout été élevé dans un milieu où la musique avait une énorme place. Au contraire, c'était plutôt le genre à fermer la radio. Mais j'ai travaillé au départ pendant des années sans aucun disque. Et je crois que c'est pour la même raison qu'on peut choisir dans les programmes télévisés qui sont de plus en plus nuls, où on fait de plus en plus de jeux, de sports, etc., des choses de divertissement. On peut effectivement désirer rechercher vraiment les documentaires qui sont bien faits par genre exploration du monde, parce qu'effectivement ils expriment énormément de choses. Et je crois que c'est un coup de cœur pour les musiques du monde, quelques-unes d'entre elles en tout cas, qui effectivement ont eu raison de la méconnaissance que j'avais du domaine, en se disant bon, je me lance dedans, on découvrira petit à petit. Et effectivement, année après année, je connais mieux la musique du monde qu'avant. J'estime toujours avoir des lacunes, bien sûr, mais comme tout le monde, on aurait tort de dire le contraire. Mais je crois que c'est un coup de cœur, en fait. C'est parce qu'effectivement, ces musiques-là m'ont dit quelque chose, m'ont interpellé quelque part. Simplement, c'est l'envie de le partager. Et c'est vrai que la radio, dans son ensemble, je ne l'ai pas découvert pour les musiques du monde. C'est d'abord via la chanson française, par exemple, où je n'ai pas fait d'émission, mais effectivement, j'allais souvent dans une émission d'une autre radio qui s'appelle Radio Air Libre. Et puis le hasard a voulu que j'avais parlé de cette émission Musique du Monde à Radio Campus, juste comme ça, avant d'y aller, en disant que ça serait bien qu'on puisse faire ça. Et puis il se fait que j'ai eu l'occasion, en rentrant du Brésil, de prendre un poste de permanent à Radio Campus en dispense de pointage, et que j'ai remarqué que dans la grille horaire, ils avaient créé une émission qui s'appelle Musique du Monde, qui était censée être partagée entre toutes les émissions des communautés étrangères, mais que personne n'avait pris en charge. Alors je dis bon, ben, y a pas le choix. J'ai sauté dessus, et bon, l'émission Musique du Monde ainsi est née, et depuis lors je ne l'ai pas lâchée. Le public que je touche, c'est en fait un public très large. Je me suis rendu... Le problème, c'est qu'on aimerait avoir un certain public, et puis on a le public qu'on peut avoir. C'est vrai que je ne fais pas énormément de promotion pour le programme, du moins je pourrais en faire beaucoup plus via la médiathèque, etc., pour toucher un large public. Il se fait que le public, au niveau des âges d'abord, va, à mon avis, de la tranche d'âge qui peut aller, mettons, 20 ans, jusque même très tard. Je crois qu'il n'y a plus de limite d'âge vers le haut. Et les quelques auditeurs qui, de temps en temps, téléphonent, souvent ils font un prétexte pour téléphoner, sont parfois d'âge avancé, 50, 60, 40, 30, il y a un petit peu tous les âges. C'est vrai qu'il y a peut-être un public plus jeune adulte, je dirais, qui écoute l'émission. C'est surtout des gens qui ont envie de s'ouvrir, c'est important, de s'ouvrir vers d'autres cultures et qui n'ont pas peur, effectivement, des choses un peu difficiles. J'ai remarqué quand même que le public me faisait souvent la remarque, sauf quelques farfelus au tout début qui préféraient tout simplement pouvoir copier les musiques que je diffusais, donc ils n'avaient pas envie que je cause. Mais en général, beaucoup de personnes, même d'un âge, surtout ceux qui ont un certain âge, prenaient des notes. J'ai rencontré dernièrement un des auditeurs qui m'enregistrait depuis des années, qui copiait l'émission systématiquement depuis des années, et il devait avoir 20 ans ou 21 ans, pas plus. Donc ça, c'est un peu pour le public, c'est difficile à juger, parce qu'on ne connaît pas ni le nombre, ni effectivement la tranche d'âge, ni les activités du public qu'on a. On travaille beaucoup à l'aveugle, en fait, en radio, grâce au soutien, à des soutiens extérieurs, parce qu'après tout, le bénévolat a ses limites. Soutien extérieur, et c'est le cas principalement maintenant avec le Fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de Belgique. Ça me permet en tout cas de pouvoir augmenter encore le niveau, d'une part, c'est-à-dire pouvoir inviter des personnes qui s'y connaissent mieux que moi. Moi, je ne prétends pas être un spécialiste en musique du monde, même si je fais beaucoup de choses dans le domaine. Je crois que si je traite, par exemple, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, moi, c'était très important. S'il y a quelqu'un qui a travaillé, surtout au niveau... Pour moi, la source, c'est les publications discographiques, où il se révèle, en quelque sorte, ou les contacts que j'ai dans l'une ou l'autre institution, pour qu'ils puissent, eux, venir partager un petit peu ce qu'ils ont découvert. Je prends le cas de 4 disques, maintenant, il y en a 5, sur la Sibérie. Je crois que si je les avais présentés moi-même, avec le livret, parce qu'après tout, c'est tout ce que je peux proposer, il y a peu de publications extérieures là-dessus, ça aurait été moins intéressant. Et j'ai appris beaucoup. Ça aussi, c'est un intérêt de faire venir des gens d'extérieur, c'est que j'apprends moi autant que l'auditeur. Et à chaque émission, avec un invité, j'apprends autant que l'auditeur. Et je pose effectivement les questions qui me passent par la tête, ce que j'ai envie de savoir. Suite à mon engagement dans Musique du Monde, non seulement il y a deux autres émissions qui sont nées, c'est-à-dire d'une part Métissage, qui est un petit peu moins traditionnel, qui permet effectivement de faire des rencontres musicales, et par la suite il y a eu Il était une fois, qui, même si c'est pas au départ des musiques traditionnelles, ce sont des contes et légendes du monde, aéré de pièces de musique du monde. Donc ça, c'est déjà une évolution de l'émission depuis son début, il y a les rediffusions aussi, et il faut reconnaître que ça a poussé aussi mon engagement par rapport à ces jours que je faisais à l'étranger d'organiser des concerts, de créer ma propre ASBL pour pouvoir organiser des tournées de concerts. Et faire venir des artistes ici, d'aller au-delà, parce que bon, c'est bien de diffuser des musiques, mais on a envie de rencontrer les artistes eux-mêmes, donc chez eux ou ici. Donc c'est une perspective effectivement qui se développe, mais une fois de plus, on est toujours buté à des problèmes pratiques de nombre d'organisateurs, de milieux très pauvres en Belgique au niveau de, pas de l'intérêt du public pour les musiques du monde, mais surtout de la part des intermédiaires, que sont les organisateurs de concerts ou les pouvoirs publics. C'est un problème au niveau de la subsidiation et puis des problèmes au niveau effectivement de placer les concerts.
Des sous de création.
Chapitre 48. L'atelier, structure d'accueil subventionnée.
Comme par compensation, le même arrêté gouvernemental de février 1999 reconnaît l'atelier comme structure d'accueil, ce qui permettra au fonds d'aide de lui accorder dès 2000 un subside de fonctionnement de 50 000 euros. Les radios associatives vivent très mal cet épisode. On leur serinait que le fonds d'aide concernait ponctuellement la production, pas la diffusion, et qu'ils ne pouvaient subsidier leur fonctionnement. Or, l'arrêté de Mme Onkelinx lui permet de subventionner un dispositif de diffusion, la RTBF, et le fonctionnement d'une structure d'accueil, l'atelier. Que le fonds d'aide soutienne structurellement l'atelier, alors qu'il refuse d'aider de cette manière les radios non commerciales, n'est-ce pas une contradiction ?
Je crois pas, parce que je pense que l'objet même est totalement différent. On aurait pu imaginer que les radios se regroupent pour constituer un atelier. Hein ? Et je pense qu'elles auraient été bien accueillies. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'aurais certainement soutenu une démarche de ce type-là.
Un atelier de production ou
de production.
De diffusion.
Oui, enfin, de production. Oui, oui, parce que moi, je reste dans cette philosophie que ces quelques millions sont destinés à aider des créateurs à produire et à diffuser des œuvres de création dans le schéma du théâtre ou de la littérature ou du cinéma ou du documentaire. Donc, on peut contester cette vision. Mais enfin, ça, pour moi, c'est un point, c'est mon point de départ. C'est la raison même du lobby et de tout le travail que j'ai effectué avec d'autres. J'ai peut-être profité de circonstances positives, mais voilà. Hein, ça, c'était l'enjeu pour moi.
Je trouve à la fois que les animateurs de cet atelier ont bien raison de tenter de mettre leur pion et d'essayer de grappiller du fric pour faire de la création. Je trouve ça... je trouve en plus qu'une série de travaux qui sont faits sont tout à fait intéressants, etc. D'un autre côté, je trouve que quelque part, ça devrait être sur un autre fond.
Dans la mesure où les programmes de stock deviennent, pour reprendre mon vocabulaire à moi, des objets artistiques, ne devrait-il pas être subsidié de même qu'une structure comme l'atelier par le ministère de la Culture, ce qui permettrait d'élargir l'enveloppe du fonds d'aide vis-à-vis des radios?
Oui, enfin, oui, non, je veux dire... Le... la question posée comme ça est fine parce que elle part du principe que, disons, ce sont les programmes dits de stock ou bien cette démarche d'aide à une création artistique qui aurait besoin d'un financement, alors qu'actuellement, c'est malheureux, mais c'est le soutien structurel aux associations qui portent Radio Panique, Radio Campus et les autres, qui ont besoin de trouver une enveloppe budgétaire.
Oui. Le problème de l'atelier de création sonore, pour moi, n'a jamais été un problème, un sujet clair par rapport au fonctionnement du fonds. Et donc, moi, je trouve que si l'atelier sonore rentre des projets, le fonds peut les soutenir, mais que l'aide structurelle, j'ai déjà pu dire que moi, ça me posait question à certains moments. Et on dit qu'actuellement, l'atelier pourrait se repositionner dans une logique d'une structure de soutien, notamment logistique, etc. Et donc, qui permettrait de mieux comprendre pourquoi il a une fonction qui n'est pas une fonction de concurrence ou de remplacement par rapport aux autres producteurs ou par rapport au projet. Moi, j'ai toujours dit aussi que je me demandais pourquoi d'autres ne rentraient pas des projets d'atelier de création radiophonique à côté de celui qui existe.
Parce notamment, que... pourquoi les radios associatives, ou certaines radios associatives intéressées, ne se regrouperaient-elles pas pour présenter aussi une structure d'accueil, au fond des... Mmh. Manque d'organisation, manque de
je de pense. Vista. C'est-à-dire que l'atelier, visiblement, il y a une intention, il y a un projet. En tout cas, il y a des gens derrière qui veulent le faire fonctionner. Les radios associatives sont quasiment toutes un peu autonomes, quoi. Hein? Et les projets de coordination n'ont jamais beaucoup abouti. Par exemple, la Banque européenne de programmes, qu'on sort souvent comme étant un exemple de... Ben, en quoi est-ce que ça consiste vraiment? Comment est-ce que c'est coordonné? Comment c'est organisé? Ce sont des choses qui ne sont pas claires. En tout cas, quand on le voit de l'extérieur. Alors que l'atelier, ça paraît plus clair. Donc, c'est des problèmes d'organisation et de coordination. Mais je pense aussi que les radios associatives, ils ont un vieux fonds autonomiste. Hein. Et que ça, ben, on ne sait rien faire contre, parce que c'est aussi ça qui les fait vivre. Mais bon... Donc moi je pense que oui, une autre structure d'accueil, quelque chose qui peut être dans un secteur qui n'est pas équivalent à celui de l'atelier, mais qui serait complémentaire, il n'y a pas de raison que le fonds ne puisse pas être interpellé de la même manière par un projet comme ça.
Et que personne ne l'oublie.
Je veux dire, on peut faire le coucou dans le nid du fonds de création radiophonique.